Ridouche, ben, c'est accompagné d'une certaine joie. C'est pas seulement accompagné de, d'un sentiment de peine, ou d'effort ou de douleur. Hein. La mitzvah, c'est peut-être pas toujours le cas, mais la mitzvah engendre aussi une certaine forme de joie. Alors est-ce qu'on pourrait dire que cette joie, cette gaieté, j'oserais même presque dire cette insouciance, c'est ça le contenu de la liberté. En tout cas, c'est l'idée que je vois se profiler derrière l'insistance qu'Abravanel et d'autres commentateurs mettent à lier le délai de 6 ans au jour de la création du monde. Et aussi au Yovel, qui est au moment de renouvellement. C'est-à-dire que la liberté, c'est le renouveau. Voilà, on pourrait dire ça, la liberté tirée des sources juives. Maintenant, après, il faudrait le prouver, en examiner les conséquences. Mais disons que c'est une intuition que j'ai trouvée pour expliquer qu'il y a bien une théorie, qu'on peut quand même trouver des théories de la liberté dans les sources juives.
Le renouveau, ce serait donc quand on sort d'esclavage ?
Oui, on sort de la condition d'esclave, oui.
Et là, c'est un renouveau ?
Oui, c'est un renouveau. En tout cas, c'est ce qu'on nous invite à penser par le paradigme de la Shemitah, le paradigme du Shabbat. Lié au délai d'affranchissement d'un esclave.
Et dans les séjours de la création, le Shabbat, ce serait un renouveau ?
Oui, je pense. Enfin, on peut le voir comme ça. Ouais.
Ce que je comprends pas, c'est le re. Pourquoi renouveau ?
Ce serait. Oui, le nouveau, si vous voulez, le chidouche. Oui, le. Oui, on pourrait dire. Alors, d'accord, on peut dire le nouveau. Le...
Qu'est-ce que tu fais de l'inversion en fait lévinassienne qui fait priorité à la responsabilité sur la liberté, une responsabilité avant la liberté ? Est-ce que c'est pas ça la spécificité juive ? Est-ce qui permet de redéfinir la question de l'autonomie du sujet ? Est-ce qu'on peut parler d'autonomie du sujet dans le monde juif ? Parce que ça me semble assez difficile. Et si Lévinas fait primer la responsabilité sur la liberté, c'est parce qu'il n'accorde pas au sujet la priorité de l'autonomie. Donc, comment tu te situes par rapport à ça ? Parce que Lévinas, sa réflexion, elle vient quand même essentiellement de la lecture des textes. Donc, je me demandais comment tu articulais tout ça.
Alors, elle vient beaucoup de la lecture des textes et de la lecture de qui, justement, essaye d'adopter une approche libérée de l'anthropologie. Heidegger, en l'occurrence. Par ailleurs, justement, Lévinas paraît un penseur de la liberté problématique, bien qu'il ait intitulé son travail spécifique sur le judaïsme « Difficile liberté ». Bon, ben il a indiqué le problème. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait résolu. Dans son œuvre, effectivement, l'articulation de la responsabilité qui est au cœur du judaïsme et de la liberté ne va pas de soi à partir de sa pensée, qui est une pensée quand même éthique et jamais vraiment politique, bon, en dépit de ce qu'a dit ici Catherine Chalier, mais ça ne m'a pas complètement convaincu. Mais néanmoins, moi, j'essaie de dire ou de découvrir ou d'entrevoir des façons de penser la liberté sur un autre mode que celui de la responsabilité et de la difficulté et de la peine, y compris associé au judaïsme. Alors je vous ai dit que c'était un chantier, un work in process, mais je crois que ça peut se tenir.
Vas-y. D'abord, merci beaucoup, Nicolas. C'est cette idée de Patterson que je ne connais pas du tout, mais que je trouve très, très intéressante, Parce que, pour moi, la traductrice, elle me renvoie au mot, encore une fois, « Eved », qui est à la fois service et à la fois esclavage, et donc discours de la servitude volontaire, contrat social, c'est-à-dire que le service est un processus de libération, comme le dit ton Patterson, justement. Comme instinct de mort, instinct de vie, comme ce qu'on a travaillé tout à l'heure, passage de l'obscurité à la lumière, effectivement, c'est une élaboration permanente, la liberté. C'est pas quelque chose en soi et pour soi. C'est une avoda.
Oui, mais en fait, cela dit, dans le commentaire de Bébé, notamment dans le Malouis, il se prend pas mal là-dessus. Il définit de façon très, très concrète le Evet. Le Evet, c'est celui qui travaille comme un serviteur, me charrette, voilà, et qui travaille dans sa spécialité. D'ailleurs, une des façons de l'humilier, c'est de lui faire faire autre chose que ce pourquoi il est fait, s'il est charpentier, de lui faire faire réparer la plomberie. Enfin, bon, un anachronisme. Voilà, donc il y a un sens très concret de Eved, et l'esclavage est vraiment abordé à partir justement de... d'ailleurs, c'est intéressant, du travail, et non pas simplement de la soumission ou de la... Il y a évidemment aussi une réflexion sur le travail.
Ben oui, et c'est tout le temps le même mot, tu vois, c'est ça en hébreu.
C'est vrai.
C'est très difficile de trancher, de dire c'est quoi la liberté, parce que avoda, c'est un processus. Y compris pour l'esclave, de se libérer ou éventuellement de dire « je pars ».
Oui, bien sûr.
Tu m'as franchi.
Il y a deux niveaux de réflexion sur l'esclave. Le niveau dans les sources vives, le niveau de l'atténuation, qui est très réel et qui peut être apporté à l'idée de fraternité. Et puis le niveau de la limitation qui porte vraiment sur l'affranchissement. Alors on peut dire aussi que la liberté a un sens très concret dans cette atténuation de l'esclavage, hein, qui va loin, même très loin, jusqu'à un peu sur le modèle des peines de mort qui, au fond, paraissent parfois inapplicables, ou en ont été finalement presque jamais appliquées. Moi, j'en serais pas si sûr pour l'esclavage, quand même. Mais y a effectivement cette injonction... cette injonction d'atténuation qu'il faut évidemment prendre au sérieux, et qui n'est pas simplement une résignation à un phénomène social qu'il serait impossible de supprimer.
Pardonnez mon ignorance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Eved c'est un travailleur, vous dites qu'il faut travailler pour la liberté?
Oui, c'est-à-dire que c'est un processus en route, c'est ça que j'aime dans ce Patterson que tu nous as présenté et qui m'intéresse beaucoup, parce que ça me paraît beaucoup plus naturel, logique, qu'au départ, il y ait esclavage d'abord.
Oui, mais c'est contre-intuitif par rapport à notre éducation rousseauiste. Mais effectivement, c'est à mon avis une vraie révolution, et qui est poursuivie d'ailleurs par beaucoup de travaux, surtout d'historiens, mais d'historiens qui réfléchissent sur l'esclavage, notamment dans cette somme qu'est les mondes de l'esclavage, où il y a quelques articles consacrés à la Torah, mais à mon avis assez insuffisants. Donc ça aussi, c'est un chantier de réflexion important à opposer aussi à ceux qui, comme Patterson, disent il n'y a pas de pensée de la liberté dans la Torah, même s'il y a alors qu'on pourrait presque dire qu'il y a une justification de l'esclavage qu'il faut prendre au sérieux quand même. Au-delà des atténuations, le principe n'est pas mis en question. Enfin, moi, ça me trouble, peut-être à tort, mais...
Absolument le concept de la sortie de l'esclavage. Donc, mais j'en sais pas assez, si tu veux, dans la loi, je vois ce que tu remets, ce qui, toi, t'interroge. Mais je n'en sais pas assez, si tu veux, dans ce que je connais de textes, plus narratifs, disons, qui est plus dans mon domaine, il y a en permanence les abèdes. Et c'est un travail, c'est une élaboration, c'est un processus. C'est pas un acquis donné, même philosophiquement, tu vois.
Oui, c'est vrai, mais dans la halakha, ça a un sens très concret, l'esclavage. Ça veut dire qu'on travaille pour un maître. Hein, c'est... Il doit vous donner son lit, on doit quand même travailler pour lui et même.
Oui, mais on peut s'affranchir aussi. Il y a.
On est affranchi au bout de 6 ans.
Mais c'est ça.
C'est quelque chose qui a un sens. Et c'est vrai que bon, j'essaie plus de réfléchir à partir de la halakha, le peu que je connais, que à partir de la Haggadah, mais par exemple, tout le commentaire de Balzer sur la Haggadah va dans un tout autre sens. Pour lui, dans la sortie d'Égypte, est bien une émancipation politique au sens plein. C'est un peu ça que je mets en cause. Enfin, en question que...
Oui, votre réflexion donc sur l'esclavage et la liberté prend en considération le concept de fraternité. Comme vous l'avez cité, il s'agit des sources de la Torah que vous avez rapportées, ce sont le Eved Ivri, donc l'esclave qui est également au service de Dieu, et c'est cet esclavage qui est limité. Moi, je voudrais, si vous parlez tout à l'heure d'intuition, je voudrais également mettre dans cette réflexion le statut de l'autre esclave, l'esclave Kenani, celui qui, à première vue, semble être complètement l'esclave, celui à qui on peut, oui, parler difficilement et lui donner, d'après les versets que vous avez cités à la fin du Lévitique, le traiter difficilement. Et pourtant, de façon paradoxale, et c'est ça ce qui m'interroge, donc suite à ça, dans la législation rabbinique, eh bien, cet esclave qui n'est pas juif, lorsqu'il devient esclave, devient un demi-juif. Il va se comporter d'après certaines mitzvot. Il va même passer un bain rituel au mikveh. Et sans doute, après, lorsqu'il sera affranchi, eh bien, il pourra décider de devenir vraiment juif. Et donc, dans ce cas-là, ce véritable esclavage, véritable entre guillemets, évidemment, ce véritable esclavage est en fait un processus où il rentre dans le peuple d'Israël, de façon paradoxale. Et ça m'interroge.
Mais je crois qu'il y a une différence parmi les nombreux cas particuliers entre l'esclave Kenani qui est vendu par un maître israélite et celui qui est vendu par
un... S'il est vendu par un maître, il sort de l'esclavage.
Voilà, mais s'il est vendu par un Cananéen ou par un non-juif, alors là, il reste un esclave.
Et entre parenthèses, ce sont des lois qui ont été appliquées au Moyen-Âge, dans les familles, oui. Et dans les familles ashkénazes, dans les familles séfarades, riches, qui, effectivement, avaient donc des esclaves qui n'étaient pas cananéens à 100%, comme ça, mais qui venaient des populations...
Oui, absolument. Nous, la diversité ethnique du peuple juif, d'ailleurs... qui comporte sans doute un grand nombre ou un nombre de ces esclaves non-juifs affranchis et devenus juifs. Oui, tout à fait. Oui, mais finalement, ça rentrerait dans le cadre du concept de fraternité qu'essaye de cerner, au fond, toutes ces lois autour de l'esclavage. C'est-à-dire, que signifie la fraternité dans un cas limite où la fraternité est exposée à cette domination violente que reste l'esclavage. Est-ce qu'on peut encore faire société ?
La différence, c'est que dans l'évêque d'Ivry, la fraternité est à la base.
Oui.
Et dans l'évêque de Nani, la fraternité est en fait une finalité.
Absolument. Absolument. Il y a aussi cette idée, alors il y a tout un débat que... De savoir si l'expression « Eved Ivri » englobe les bnei Edom ou les bnei Ishmael, c'est-à-dire tous les enfants d'Abraham. Est-ce que ça veut dire les enfants d'Abraham, en fait? Donc, ça veut dire à peu près tout le monde. Bon, certains commentateurs disent « non, quand même ». Enfin, le débat existe, mais la possibilité... d'universalisation de cette loi est là, bien sûr, dans l'expression finalement assez surprenante d'Eved Ivri. Pourquoi à ce moment de la Torah, tout d'un coup, revient le concept d'Ivri? Ça veut dire quelque chose. Enfin, ça veut dire aussi qu'on est dans le cadre de lois qui sont communes, au fond, à la fois aux Bnei Israël, qui apparaissent comme communes au Bnei Israël et aux enfants d'Abraham au sens large, et que pourtant on va distinguer des autres.
Entre l'Eved et Ivri, il y a une seule lettre de différence, c'est l'Eved et le Rech qui sont...
Oui.
Il va y avoir l'enfant.
Aussi, oui, absolument. Il y a aussi l'idée que Ivri, c'est celui qui passe, donc l'esclavage est un état transitoire. On pourrait le commenter comme ça.
Ah oui.
Là, je parle absolument out of the blue.
Mais juste pour rebondir peut-être sur ce que vous dites, je suis toujours un peu perturbé, mais je sais que je n'ai mis rien en Torah ni en philosophie, mais si c'est un travail, le monde de la liberté, peut-être pour le Rav, pour ne pas que par exemple le temps des Sémites, notre futur, ça va être le monde de la jouissance. Est-ce que du coup on travaillera dans ce monde de la jouissance ou par exemple Shabbat? Parce qu'on travaille Shabbat. Je sais pas si c'est ça la liberté et que la liberté est un travail. Mais concrètement, alors quand on arrive à la liberté, il n'y a plus de travail.
Le monde de la puissance pure, c'est pas énorme. C'est un monde dans lequel il y a plus de travail.
Donc quand on est libre, il n'y a plus de travail.
Je pense que c'est là. Est-ce que c'est la caractéristique du monde de l'avenir, le monde de la liberté? On considère qu'on est libre dans ce monde-ci. Kavod, c'est dire à Kavod à la Lechot. Celui qui obéit aux lois qui sont gravées dans la Torah, enfin dans le marbre, dans les fameuses tables, c'est ça la liberté. Mais c'est dans ce monde-ci, c'est pas reporté au monde à venir. On est libre dans ce monde-ci avec la Torah. C'est pas quelque chose qui est réservé pour un monde à venir. C'est pas présenté comme ça en tout cas.
Mais
au moment de la sortie d'Égypte, il y a urgence à être libre. Je ne vois pas trop comment ça pourrait se faire dans un processus lent, la Yetzia. Enfin, il n'y a pas le temps de fermer des pains, on fait Matzot. Il y a une rencontre immédiate avec le verbe divin. Ensuite, c'est Raoul, Kolot, c'est pas Shamou, c'est Raoul. La liberté, justement, ce ne serait pas refaire l'expérience de cette immédiateté, de ce face-à-face avec le divin.
Oui, ça rentrerait dans l'idée du renouvellement. C'est vrai que dans la vie juive, on renouvelle sans cesse des événements fondateurs. Ça, c'est enfin, tous les matins même. Enfin, tous les dans la tefila, dans ce face-à-face, on le répète pour le renouveler, pour le rendre à chaque fois.
Mais si on le répète, c'est peut-être parce que justement c'est une constante en fait.
Oui, mais ce qui est la constante, c'est le renouveau, c'est la constante non d'un processus et non pas de l'affermissement d'un état, je dirais, d'un statut.
Et bien d'accord.
Justement, même si la liberté est une maturation maladroite avec et peut-être sans arrêt en question, mais ce moment où justement elle est sans condition, où elle est sans contenu, sans convenu, où elle est tellement propre à l'humain ou au vivant peut-être, et que c'est aussi un visage de la liberté qui est intérieure et qu'on peut toujours retrouver, qui nous fait aller au-delà de là où justement les opposés se font la guerre. Mais cette chose donnée en dehors du labeur, elle est toujours sous-jacente. Elle pourrait toujours venir, même si elle doit se raccrocher à un moment, bien sûr, à l'environnement et dans son aller-retour. Mais c'est un de ces visages, je ne sais pas, ça me semblait...
Je dirais pas dans l'antisémitisme, mais dans une espèce d'agressivité à la fin de sa vie vis-à-vis des Juifs. Mais c'est ce texte extraordinaire qui s'appelle Le premier jour de la création, donc c'est quand même pas rien, qui est une des meilleures qui m'est apparue, et d'ailleurs qui est apparue aussi à ma femme, parce qu'il faut toujours citer ses sources, Raya. Comme l'illustration même de ce que pourrait être la liberté. Alors je risque quelque chose de très gros, tiré des sources juives pour parodier le titre de Cohen, de Herman Cohen, tiré des sources hébraïques. Mais bon, ça demanderait à être étayé. Effectivement, c'est quand même extraordinaire que quelqu'un comme Solzhenitsyn, à une époque où il était pas encore redevenu vraiment orthodoxe, à l'époque khrouchtchevienne, quand il écrit Le pavillon des cancéreux, lit la liberté à la création. Ça me paraît un geste très fort d'un écrivain qui nous donne énormément à penser, y compris par rapport au texte halakhique sur l'esclavage.
Bonne approche, mais en tout cas, c'est aussi problématique de considérer que pour qu'il y ait de la liberté, il faut qu'il y ait de l'esclavage. Je pense à ça parce que je pense même pas alors bien sûr à la Torah, mais aussi à la première question qui a été posée politique, c'est-à-dire que est-ce que c'est une avancée, est-ce que vraiment c'est une avancée qui peut nous rapprocher de la gauche que de dire que non, mais je dis ça parce que je repense à la formulation de la première question. Est-ce que vraiment ça peut nous rapprocher de dire que pour qu'il y ait de la liberté il faut qu'il y ait de l'esclavage? Moi ça me...
Je pense aussi qu'il est problématique au point de vue très superficiel d'abord. d'abord les problématiques qu'on ne puisse pas, avec évidence, soutenir que l'esclavage a été aboli par la Torah. Bon, moi, ça me pose un problème, en tout cas dans notre monde, dans le monde moderne dans lequel on vit, où, on, par exemple, toute une école historique accuse les Juifs de s'être livrés au travail des esclaves. Dans le sud, dans le sud de l'Amérique, il y avait des propriétaires juifs d'esclaves. Voilà, donc c'est évidemment... après, il y a des conclusions politiques extrêmes qui en sont tirées, qui sont souvent ridicules, etc. Mais ça veut dire que la question de l'esclavage est à la fois un problème et un point de départ pour penser la liberté. Je pense que c'est le phénomène premier, c'est bien l'esclavage.
C'est pire. Vous dites pire, vous dites non seulement l'esclavage n'a pas été aboli, mais il permet de penser la liberté, c'est ça, moi, qui me dis pas.
Mais en s'en détachant, par l'affranchissement, malgré tout. Je ne dis pas que l'esclavage est la liberté. La liberté, justement, tout mon propos tend à infirmer la phrase de 1984, la liberté c'est l'esclavage. Non, la liberté n'est pas l'esclavage, elle est la sortie de l'esclavage. Il faut y être, alors, bien sûr, mais je pense que c'est ce que découvrent aussi les ethnologues, les anthropologues, ceux qui travaillent sur les sociétés premières, etc.
Oui, mais ça veut dire de manière très concrète, aujourd'hui, il n'y a plus dans les sociétés occidentales d'esclavagisme.
Oui, il y a de l'esclavage. Je sais pas. Oui, bien sûr. Il y a de l'esclavage. Dans le livre Les mondes de l'esclavage, on fait l'inventaire de ce qu'on peut considérer comme de l'esclavage, comme des phénomènes d'esclavage. C'est un problème tout à fait actuel.
Le monde du travail, par exemple ?
Non, mais ça, c'est... même au-delà de l'idée de l'assimilation par Marx du salariat à l'esclavage, il y a des phénomènes de pur esclavage dans le monde qui ressemblent à l'esclavage dans l'Antiquité, au travail forcé, je ne sais pas, des gens qu'on prive de leur passeport pour travailler sur les chantiers de Dubaï, du Qatar ou ailleurs. Non, le phénomène de l'esclavage existe. C'est d'ailleurs l'objet de nombreux rapports de l'ONU. Enfin, c'est pas quelque chose qui est complètement disparu, au contraire. Dans le monde de l'esclavage, ici, il chiffre à plusieurs millions les gens qui, de facto, vivent dans un état d'esclavage. Y compris, d'ailleurs, en France.
Concrètement, ce serait quoi, par exemple ?
Je sais pas, des sans-papiers séquestrés ou des gens qui sont totalement privés de droits et dépendants totalement de leur employeur. Enfin bon, ça, c'est pas tellement l'objet de cette séance. Mais enfin, c'est un phénomène qui existe, bien sûr, qui n'a pas du tout disparu. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je vous renvoie à cette somme qui est les mondes de l'esclavage, les chiffres, c'est pas bien, il y a aussi la fertilité.
Dans toute relation à l'autre, dans la vie, dans tout, tout.
Ça serait un peu loin, je
trouve.
Là, je dirais que quand même,
le collectif,
l'esclavage, pour moi, est lié au travail. Tel qu'il le définit.
Oui, non.
Je ne pense pas que la liberté, ce soit si ancrée par rapport au travail. J'ai l'impression que partir quand même beaucoup de l'esclavage, notamment sur le fait que vous dites que malgré tout, quand même, la Torah aurait pu... Moi aussi, ça m'avait choqué. Je me rappelle une question que j'avais posée au Rav. Je me disais, mais pourquoi ça perd ? Pourquoi c'est resté ? Pourquoi pas avoir été radical avec ça, l'enlever comme... C'est vrai, j'ai pas vraiment de réponse. La réponse c'était que peut-être effectivement, on peut pas être radical à l'époque et que il fallait plutôt contourner. C'est vrai que la Torah, ça souvent comme ça, c'est pas forcément toujours radical. On cherche
à faire avec, pour transformer, pour qu'il y ait une maturation peut-être. Mais moi, j'ai quand même l'impression que... bon, là, c'est peut-être une question que je pense que je pose au Rav, mais peut-être de nous redire sur quoi ça rejoint aussi ce que disait mademoiselle. Comment on peut penser la liberté, je le fais un peu de façon un peu naïve, mais quand même, c'est penser la liberté quand il y a une contrainte, c'est-à-dire comment on peut l'imaginer être libre alors qu'il y a une contrainte à Matan Torah. Alors, ça semble être tellement en désaccord avec une idéologie dominante, et je pense que c'est tout le judaïsme, justement, que de réfléchir à ça. Il me semble quand même qu'on est au ras des versets, mais ce qui est important, c'est ce que cette contrainte génère sur nous en termes de Torah chez Béal Pé, c'est-à-dire de déployer tout ça, en fait.
Alors, c'est pour Nicolas, la réponse.
J'ai encore moins de réponses, mais je sais que c'est un problème. En tout cas, ça pose un problème. Bon, Lévinas en a quand même beaucoup parlé dans son travail. Et moi, ça me pose un problème de définir la liberté à partir de l'obéissance. Je préfère la définir à partir de l'affranchissement. Et je trouve des sources juives à ça. Mais oui, j'ai pas. Parce que sinon, on risque de retomber dans cette idée, dans la mise en équivalence du joug de Paro et du joug d'Hachem. Hein. C'est quand même. Effectivement. Donc moi, ça me pose un problème, mais peut-être j'ai
c'est
tort.
C'est pas la même chose.
Non, bien sûr que c'est pas la même chose, mais c'est bien sûr que c'est pas la même chose, mais la structure est là. La structure est là et l'esclavage existe. Donc il faut trouver, comme me disait. Le regretter, qui m'a appris beaucoup de choses, le regretter Georges Lévy, il faut trouver ce que cela veut me dire. Peut-être pas ce que cela veut dire, mais ce que cela veut me dire. Enfin, nous dire.
Léo Gaudron.
Et encore une fois, je ne me satisfais pas du paradigme kantien que la véritable liberté, c'est l'obéissance à la loi, que le reste.
Attends juste que j'arrive à toi.
Vous avez ouvert votre propos en disant votre lassitude face au tout politique et à la lecture du concept de liberté comme non-domination, qu'il fallait dépolitiser le concept de liberté, en ayant recours notamment aux sources de la tradition. Mais finalement, finir, et c'est une très belle lecture, sur la liberté comme affranchissement continué par rapport à la reconnaissance d'une création continuée, est-ce que c'est pas revenir à une lecture politique, finalement ? Parce que si on ne peut pas penser à la liberté sans l'esclavage, et qu'on ne peut la lire que comme affranchissement, on revient à une lecture politique. Et en quoi cette lecture politique, elle serait divergente de... En quoi elle diverge des lectures de l'histoire de la philosophie moderne? Et est-ce que vous considérez être sorti de cette lecture-là, malgré tout?
Être affranchi, c'est... Non, parce que je pense... Oui, alors, vous avez raison, mais là, c'est aussi parce que j'ai pas vraiment développé ce que je disais en conclusion. Mais c'est vrai que, de toute façon, la question de l'esclavage, ça concerne ce qu'on appelle souvent le domaine des lois civiles, ou en tout cas, Ben Adam le Havero. Donc, c'est dans cette logique-là, c'est ce que nous dit Avraham Hanel. Donc, ça a une dimension qui dépasse celle de l'éthique. Hein, c'est pour ça que le cadre lévinassien n'est pas forcément le meilleur pour l'aborder. Mais et je pense que c'est au fondement, on peut le mettre au fondement, oui, du politique, indépendamment des théories de la liberté chez les philosophes modernes qui sont multiples. Hein, et que ça nous permet justement de sortir un peu de deux modèles de liberté, la liberté comme libre arbitre ou la liberté comme obéissance à la loi universelle et nécessaire. Bon. Qui sont d'ailleurs des modèles séduisants hein, et qui ne sont pas complètement... Mais voilà. Et là, ce serait quand même une sorte de recherche d'originalité. Et j'insiste sur le fait que cette liberté... C'est pour ça que j'ai voulu citer... je voulais même en lire des extraits. Le texte de Solzhenitsyn, parce que ça a un contenu concret, en fait. C'est-à-dire la liberté ainsi conçue, elle a il exprime, par exemple, dans un très beau passage, sur le fait qu'il mange un shashlik. Il y a la description de cette expérience de liberté à partir de la consommation d'un shashlik qui est très, très... assez extraordinaire. Donc, Il y a un contenu particulier, et il y a un contenu particulier qui est amené par la façon dont le problème de l'esclavage et de la liberté sont posés par la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un contenu singulier, je pense. Mais bon, là aussi, ça mériterait, je reconnais que ce ne sont que des ébauches. Je pense aussi que le messianisme a un contenu politique, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai terminé par là. Y compris d'ailleurs chez beaucoup de philosophes contemporains, chez Benjamin, chez Derrida. Bon, alors eux, ils sont pour un messianisme sans messie. J'entre pas là-dedans, mais c'est évident que le messianisme a une lecture du messianisme et de ce qu'on entend par messianisme a un sens politique, de politique juive. Hein. Et indépendamment, évidemment, de ce qu'on appelle messianisme dans la politique israélienne aujourd'hui. Hein, c'est sûr que c'est un bon... La pensée du messianisme est une pensée politique.
Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais une question sur l'articulation entre l'individuel et le collectif. Je suis assez sensible à cette idée de la liberté comme un affranchissement en processus. Ce qui m'interroge, c'est est-ce que vous considérez que ça s'applique au collectif, à l'individu en tant que nature ? Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est cette image de l'état de nature, entre guillemets, selon Peterson, qui serait opposée à celui de Rousseau, où en fait, finalement, la condition première, ce serait l'esclavage. Ça m'a rappelé la servitude volontaire de la Boétie, qui, pour le coup, l'applique à la nature humaine, l'individu en tant que tel, qui, par nature, se complaît dans la servitude. Est-ce que cette lecture, vous l'appliquez à la société politique, plutôt à la condition humaine, donc la liberté comme condition et si oui ou non, comment est-ce que vous articulez les deux ?
Alors d'abord, Peterson, oui, est un historien, un sociologue, pas un philosophe qui cherche l'origine à la liberté, d'ethnologue, voilà, donc c'est... Et il voit le phénomène de l'esclavage comme antérieur à celui de la constitution de l'idée de liberté politique, donc dans la Grèce. Et il essaye de penser l'intrication entre les deux, c'est ça qui... Oui, effectivement, je pense que... j'ai voulu chercher à penser... Pourquoi l'esclavage m'a intéressé ? Parce que c'était une façon de penser à la liberté et à son contraire en dehors de l'éthique, justement, dans des relations inter-individuelles, donc dans une ébauche du politique, effectivement, et essayer de trouver ce que cela nous dit d'une politique possible, fondée à la fois sur la fraternité, sur l'affranchissement. Voilà. Et, alors après, la politique que ça définit, c'est un chantier totalement ouvert. J'en sais rien. Ça me paraît plutôt... C'est pour ça que j'ai parlé du messianisme. le messianisme me paraît l'idéal vers lequel tendent ces lois et l'interprétation positive qu'on peut en tirer pour penser la liberté. Et oui, mais c'est un travail à faire encore. Je peux pas écrire une constitution juive. Je ne suis pas encore à partir de...
Vas-y.
Tu as parlé de création, Nicolas. Je suis en train d'associer divers mots qui circulent comme ça. Création, contrainte, individu. Et on pourrait parler de ce qui se passe dans l'art, qui est à la fois liberté et contrainte. Et je ne parle pas de l'art dans un sens romantique, dans un sens tout à fait concret humain, c'est-à-dire la possibilité de créer, qui implique de la contrainte, qui implique liberté et contrainte. Tu ne peux pas avoir d'art sans les deux. Impossible. Enfin, j'ai pensé, dès que monsieur a dit contrainte, j'ai pensé Pérec. Tu vois, c'est ça que ça m'a fait. Et je me suis dit, c'est les deux. On est esclave de son œuvre.
Oui, c'est sûr. Là,
c'est... Et c'est une liberté royale, divine en même temps, à des moments.
Oui, bien sûr.
Oui, mais donner cette possibilité à l'individu dans la société.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais d'ailleurs, je crois qu'un des projets d'Alexandre, c'est de faire quelque chose sur l'art et la Torah. Donc, ça rentrerait tout à fait dans...
Quand on aura terminé les politiques juives en exil, c'est-à-dire Ada Olam, peut-être. Ada
C'est vraiment une question que j'étais en train de réfléchir plus que de... j'ai essayé de remettre de l'ordre dans ma compréhension de ce que vous avez dit. Si je comprends bien, en fait, il y aurait l'idée que, d'une part, la liberté se fonderait sur une forme de fraternité qui naît d'un service partagé au divin. Vous m'arrêtez si je... Et que de cette fraternité naît l'impossibilité d'être dans un rapport de domination qui serait le vrai esclavage, c'est-à-dire, selon les commentaires de Rashi, un esclavage, ça va dans ce sens, avec humiliation, etc. Mais néanmoins, on garde une forme d'esclavage restreint, on va dire. Pourquoi ? Parce que ça permet de maintenir la possibilité de s'affranchir plus complètement. C'est ça que... je suis pas sûre de complètement saisir, en fait.
Non,
je me suis...
En fait, pour tout dire, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de réponse à la question.
D'accord.
Pourquoi maintient-on l'esclavage ?
D'accord.
Mais j'essaie de trouver dans l'idée de l'esclavage, à la fois dans l'atténuation, ce qui est évident, mais aussi dans d'autres phénomènes, évidemment, à partir de la panel ou d'autres phénomènes de limitation,
l'idée qu'il y a peut-être sous-jacent une théorie de la liberté, quelque chose qui nous permettrait de penser la liberté. Mais c'est purement intuitif. Enfin, je fais des rapprochements et j'y vois une démarche de pensée des sources juives très intéressante qui consiste à penser la liberté à partir de l'esclavage. Alors moi, j'y ajoute que peut-être, au fond, la liberté, c'est un affranchissement continué comme... Parce que, comme le dit le Rav, on est dans ce monde. Et donc, alors, la fraternité, on est dans Mishpatim, on est dans le cadre Ben Adam le Chavero. Donc, le rapport au divin, bon, il est là, bien sûr, puisque comme ce sont des lois divines qui sont englobées, comme dit Abravanel, dans le. Les Aseret Adivrot, et puis qui les suivent immédiatement. Donc, néanmoins, ce qui sont définis, ce qui est défini là, c'est la relation interpersonnelle, un cadre, le cadre collectif, qui dans le cadre du Sinaï constituera la société des Bnei Israël.
Une forme de relation horizontale, dont l'horizontalité dépend d'une forme de verticalité.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Un triangle qui crée de l'horizontalité, justement. C'est peut-être un rapport à une transcendance qui crée une mise à égalité, mise au même niveau de tout ça.
Oui, on peut le dire comme ça. Bon, ça, ça c'est un, disons que je, c'est un autre problème que sur, parce qu'il y a aussi la différence entre les chokim, les chokim, les mishpatim, etc. Bon, il y a une, plusieurs catégories de règles et de lois. Les mishpatim, là, vraiment, moi, c'est, on peut dire aussi qu'Hachem dit, bah, maintenant, voilà comment vous arrangerez entre vous aussi. Hein. C'est effectivement, si vous voulez me respecter.
Peut-être pour l'une des dernières questions.
Juste une petite question de sémantique par rapport oui, donc, à la façon dont s'exprime la Torah, le terme de liberté. Donc, vous avez parlé de dror, mais ce serait plutôt finalement, si j'ai bien compris, la sortie, la yetzia, le mot le plus proche de votre exposé. Et le mot chérout, comme on dit, man chéroutenu à Pessah, c'est. Ce serait quoi? Qu'est-ce que ça recouvre? Parce qu'il y a aussi le jeu de mots entre Rerout et Harout, gravé, libre. Est-ce qu'on peut l'articuler autour de votre exposé, ce jeu de mots que fait...
Il doit être quelque part dans la Torah, mais est-ce qu'il est... En tout cas, dans l'esclavage, il y a quelque chose qui est
Harout.
Oui, c'est bien Harout.
Et on dit il sortira, il n'est pas question de chérout, mais...
Oui, la Torah, c'est un grand concept, c'est vraiment du...
Ben quand elle dit un mot, c'est pour dire... Quand elle emploie un mot à la place de l'autre, quand même, c'est pour dire des choses différentes, enfin... Oui, j'avoue que j'ai cherché, effectivement, il y a Nérorine, etc. Mais là-dessus, j'ai pas trouvé grand-chose. Dans le cadre des lois de l'esclavage, on ne parle pas de chérout. Peut-être on pourrait dire que... mais je ne sais pas, on pourrait risquer de soutenir que chérout, c'est la libération collective de tout le peuple. Alors, mais bon. Je ne sais pas si... Est-ce que le mot chérout se trouve dans la Torah? J'en sais rien. Le mot chérout se trouve-t-il dans la Torah? Chérout, oui. Chérout, oui. Mais... C'est une question linguistique intéressante, effectivement, qui concerne éminemment notre sujet. Mais je ne l'ai pas creusé. Et je regarderai.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Nicolas.
Merci de votre écoute.